nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Nous, adultes, ne comprenons pas les enfants parce que nous ne comprenons plus notre propre enfance, écrivait joliment Freud dans un article de 1913. Si l'enfance est au cœur de la pensée théorique du fondateur de la psychanalyse, ce dernier ne s'est que peu intéressé aux enfants comme sujet d'analyse. L'apport de Mélanie Klein dans ce domaine fut essentiel. Née à Vienne en 1882, morte à Londres en 1960, elle fut notamment la première à poser que le jeu, cette activité spontanée des enfants, constituait un dialogue possible entre l'analyste et son jeune patient. La compréhension de sa pensée a toutefois été brouillée par une querelle de celle dont l'univers psychanalytique a le secret et qui s'ancre dans son opposition violente avec Anna Freud, la fille de Sigmund, à laquelle ce dernier avait en quelque sorte légué le terrain d'investigation de l'analyse d'enfants. L'opposition ne disparut pas avec les deux femmes, bien au contraire, et demeura si vive qu'en 1982, le grand psychanalyste Jean Laplanche prononça une conférence intitulée ironiquement « Faut-il brûler Mélanie Klein ?». En 1983, Émile Noël reprit ce titre pour une émission à laquelle il convia Jean Laplanche lui-même d'abord, ainsi que deux autres grands connaisseurs de l'œuvre de Klein, Jacques Goldberg et Jean-Michel Petaut. Recherche et pensée contemporaine, faut-il brûler Mélanie Klein ? Une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 janvier 1983.
Recherche et pensée contemporaine. Science, philosophie, psychologie des profondeurs, science religieuse. Faut-il brûler Mélanie Klein ? Par Émile Noël. Avec Jean Laplanche, professeur à l'Université Paris 7, responsable du doctorat de recherche en psychanalyse. Jacques Goldberg, psychanalyste, chargé de cours à l'Université Paris 7. Et Jean-Michel Petaut, psychothérapeute, maître assistant à l'Université Paris 10.
Mélanie Klein est née en mars 1882, tout juste un peu plus de 100 ans. Et elle est morte en 1960, au mois de septembre, voilà déjà 20 ans passés. Son œuvre est de mieux en mieux reconnue et de plus en plus estimée, et pourtant elle engendre toujours autant de débats, voire de conflits. Les apports de Mélanie Klein à la psychanalyse sont considérés comme géniaux par les uns, hérétiques par les autres, et les deux à la fois par certains. Quoi qu'il en soit, de nos jours encore, la pensée kleinienne est agissante. Elle se situe bien dans le champ de la recherche et de la pensée contemporaine. D'ailleurs, on assiste actuellement à une série de publications la concernant, dont d'ailleurs certains textes inédits en français et qui viennent d'être traduits par Jacques Goldberg. Jean Laplanche, vous êtes professeur à Paris 7, vous dirigez d'ailleurs là-bas le doctorat de recherche en psychanalyse, et c'est précisément dans votre revue, qui s'intitule « Psychanalyse à l'université », qu'ont été publiés ces textes inédits en français de Mélanie Klein, dont d'ailleurs on aura peut-être l'occasion de parler tout à l'heure. Mais auparavant, je voudrais mieux connaître avec vous ce que représente de nos jours Mélanie Klein dans la psychanalyse. Je vous ai emprunté le titre de cette émission puisque, en effet, vous avez intitulé une de vos conférences « Faut-il brûler Mélanie Klein ?». On peut comprendre qu'il y a ici métaphore, bien sûr. Mais tout de même, j'aimerais que vous vous prononciez sur cette formulation au pied de la lettre, tout autant que métaphoriquement.
Oui, évidemment, c'est un titre partiellement humoristique, qui fait appel au sort qu'on réserve aux hérétiques et aux sorciers qu'on leur a réservé depuis fort longtemps. Mais c'est un titre qui n'est pas seulement humoristique, parce qu'en effet, Melanie Klein fait figure dans le mouvement analytique d'hérétique et de sorcière. Elle a fait cette figure dès les premières thèses qu'elle a développées, et le mouvement clénien fait encore actuellement figure de mouvement hérétique. Il faut dire que souvent le mouvement analytique ressemble à une église avec ses querelles violentes, et vous avez des sociétés d'analystes qui sont entièrement cléniennes et qui défendent une orthodoxie extraordinaire contre laquelle s'insurgent avec la même violence des anticléniens non moins farouches. Donc on peut dire que pour ceux qui ont pris les choses au pied de la lettre et du dogme, en effet, il y a là une hérésie à accepter ou à combattre. Et je vais maintenant plus loin, on brûlait non seulement les hérétiques mais les sorcières. Eh bien, Melanie Klein fait figure aussi de sorcière. Lacan avait utilisé ce terme lui-même quelque peu critique de tripière de génie. Eh bien, une tripière de génie ou une sorcière, c'est quelqu'un qui fait revivre un monde tout à fait effroyable de démons et qui le prend au sérieux, qui y croit et qui fomente son sabbat personnel. Eh bien, Melanie Klein a bel et bien été accusée de faire appel à toutes les forces démoniaques et à faire ces sabbats qui dérangeaient parfois un peu le mouvement analytique.
Mais alors, comment est-ce qu'elle intervient justement dans le mouvement analytique ? C'est peut-être intéressant de voir comment, chronologiquement, son intervention se situe, à la fois à quel moment et en même temps de quelle façon ?
Eh bien, Melanie Klein se situe à partir des années, disons, environ 1927. Elle se pose d'abord comme une continuatrice d'un des principaux élèves de Freud, qui est Abraham, qui s'était intéressé à une véritable catégorisation, voire une certaine chronologie assez fine des stades de développement de l'enfant. Et c'est à propos de cette psychanalyse de l'enfant que Melanie Klein va se poser. Et très vite, elle va se poser avec des théorisations nouvelles. C'est-à-dire pas seulement quelqu'un qui inaugure une technique nouvelle ou un abord nouveau de l'enfant. Elle n'était quand même pas la seule. Il y avait le précédent fameux de Freud avec le petit Hans. Et il y avait d'autres analystes qui s'intéressaient à l'enfant à l'époque. Mais elle apporte en même temps que cela une vue complètement nouvelle du monde de l'enfant. Très vite, cet apport de Klein a donné lieu à polémiques extrêmement violentes. Il y a eu en 1927 un colloque sur la psychanalyse des enfants qui opposait les tenants de Melanie Klein et ceux d'Anna Freud, qui représentait l'orthodoxie freudienne, et Anna Freud elle-même donc s'occupait des enfants. Dire qu'elle les psychanalysait, c'était autre chose, mais elle s'y intéressait bien sûr. Colloque qui n'avait de colloque que le nom, qui était déjà un débat, disons, une espèce de concile prêt à l'excommunication. Et l'une des étapes les plus extraordinaires de ce débat et de ce concile, ça a été l'étape de la guerre, en pleine guerre, en plein blitz, en un Londres soumis aux V2 de l'armée allemande et aux attaques aériennes incessantes, dans les caves. Les psychanalystes discutaient entre eux et étaient prêts à s'excommunier les uns les autres, justement sur la question de Melanie Klein.
Quelques 15 ans plus tard.
Bon, la question s'est réglée ensuite par une espèce de gentleman's agreement, comme savent le faire les Anglais, avec la création de deux sociétés et d'un groupe intermédiaire pour faire le pont. Il n'en reste pas moins que dans le mouvement analytique entier, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, eh bien, le kleinisme est encore une pomme de discorde.
Alors, est-ce qu'on peut parler justement en termes de discorde ou en termes d'apport ? Peut-être ici, il est plus intéressant d'essayer de regarder quels sont les apports, même si effectivement, on peut les discuter ensuite.
Bon, je pense que le seul apport digne d'un psychanalyste grand, comme c'est le cas, d'une telle stature, c'est de le lire et d'essayer de l'interpréter et de comprendre à quelles exigences profondes correspond son apport, même si on le redit ensuite en d'autres termes. J'appelle cela personnellement faire travailler un auteur, et le faire travailler, c'est le soumettre à des contraintes, presque le disloquer comme on disloque un meuble éventuellement, voir ce qu'il a dans le ventre, si vous voulez, et voir ce qu'on peut en tirer. Prenons les tout premiers apports de Melanie Klein, c'est-à-dire justement ce débat sur la psychanalyse des enfants. La psychanalyse des enfants est-elle possible ? Demandait-elle, et elle répondait par oui. Alors que pour quelqu'un comme Anna Freud, la psychanalyse des enfants n'était pas possible. Il était possible d'avoir un abord psychanalytique de l'enfant, de tenir compte des découvertes de l'analyse, mais le monde de l'enfant, pour Anna Freud, n'était pas encore constitué comme est celui de l'adulte. C'était un monde en constitution, et ce monde en constitution méritait plutôt des mesures propédeutiques et des mesures éducatives que des mesures à proprement parler analytiques. Qu'est-ce qu'apporte Melanie Klein ? C'est l'idée que chez l'enfant, extrêmement précocement, le monde psychanalytique, le monde inconscient est déjà constitué. Et au-delà donc du fait de simplement dire il faut s'occuper des enfants ou pas, ça n'est pas là la question, il s'agit de s'en occuper psychanalytiquement et de s'en occuper par l'interprétation. Anna Freud disait par exemple quelque chose qui paraît très évident. Elle disait, mais vous allez vous occuper des enfants, vous allez leur interpréter leur complexe d'Édipe, c'est-à-dire leur relation avec les parents, mais les parents sont là, n'est-ce pas ? L'Édipe n'est pas du passé pour l'enfant, l'Édipe c'est ce qu'il est en train de vivre. Comment voulez-vous interpréter quelque chose qui est dans le réel, dans le monde extérieur, qui n'est pas encore intériorisé ? Melanie Klein répond à cela, eh bien, bel et bien, nous avons chez l'enfant déjà à 3 ans ou à 2 ans, à l'âge extrêmement précoce où elle les voyait, nous avons déjà quelque chose d'intériorisé, quelque chose qui est un complexe d'Édipe, mais intérieur. N'est-ce pas ? Nous avons ce qu'elle appelait des imagos. Et elle a cette phrase tout à fait étonnante. Bien que la relation aux parents soit ce qui se reflète dans le monde intérieur de l'enfant, eh bien, les parents réels voient se projeter sur eux des imagos intérieurs. Il y a une espèce de prééminence du monde intérieur de l'enfant extrêmement tôt. Bien sûr, Melanie Klein dit quand même, il faut bien que ça se constitue à un moment ou à l'autre, mais elle le situe alors vraiment dans la toute première année.
C'est-à-dire que les parents réels ne sont pour l'enfant qu'un support à projection.
Les parents réels, pourrait-on dire, sont pour elle déjà objet de transfert. Loin qu'on puisse dire qu'il y a transfert des parents sur l'analyste, les parents eux-mêmes sont déjà des premiers objets transférentiels de ces imagos extrêmement archaïques qu'elle croit détecter, dont elle croit détecter l'origine alors dans la toute première année.
Alors cet aspect de la pensée de Melanie Klein est un apport tout à fait original.
On peut dire que plutôt qu'un apport original, c'est une façon foncièrement originale et accentué de redire des choses qui étaient déjà en gestation ou qui avaient été plus ou moins occultées dans la pensée freudienne. Freud, très tôt, avait insisté sur ce qu'il appelait la réalité psychique, c'est-à-dire qu'il y a dans notre psychisme quelque chose qui n'est pas, dirais-je simplement, de la psychologie, mais quelque chose qui a la solidité et le caractère concret d'une véritable réalité. Il employait ce terme de réalité psychique pour le fond de nos désirs. Eh bien, cette idée de réalité psychique a peut-être été un petit peu oubliée au cours des années. Elle a peut-être été un peu recouverte par de la psychologie. Et Melanie Klein, en réaccentuant des termes comme celui d'objet interne, comme celui d'imago, nous remet devant ce fait que nous sommes habités d'un monde que nous ne gouvernons pas et auquel la psychanalyse a affaire. Donc, nouvelle terminologie, nouvelle accentuation. Souvent, la psychanalyse est faite de ces rappels à l'ordre qui sont à la fois des créations, des remises en perspective et en même temps, bien sûr, des apports.
Si je vous entends bien, il s'agit peut-être davantage d'approfondissement d'une pensée originelle préexistante que d'apport à proprement parler.
Disons que cela, ça serait mon point de vue personnel, n'est-ce pas ? Et que ni les Kleiniens farouches, ni les anti-Kleiniens ne seraient d'accord avec cela. Mon point de vue, c'est qu'il y a un noyau de découverte dans la psychanalyse, qui est un noyau qui possède son caractère tout à fait aigu et révolutionnaire. Eh bien, toute grande pensée psychanalytique est nécessairement un retour aux sources. Il n'empêche pour autant que ce retour aux sources est en même temps novation. Mais je pense que une véritable justice rendue à la novation doit en même temps montrer comment cette novation s'inscrit dans une problématique qui est ancienne et qui est renouvelée.
Vous avez tout à l'heure signalé, ou tout au moins j'ai cru entendre ça, signalé que Melanie Klein était créatrice de terminologie de concept. D'ailleurs, encore faut-il savoir s'il s'agit effectivement d'une création d'un mot ou d'une création d'un concept. En ce qui la concerne, d'abord, est-ce concept ou mot, ou il y a création ?
Eh bien, il se trouve qu'il y a déjà maintenant plus de 10 ans, avec Lefèvre Pontalis, nous sommes intéressés de façon très, très précise et minutieuse au concept psychanalytique, au vocabulaire de la psychanalyse et à ce qu'il y a de créateur dans ces concepts. Je pense que tout concept véritablement de poids, tout concept qui persiste, il persiste parce qu'il entraîne avec lui une conceptualisation et une nouvelle vision d'un certain secteur. Et le fait que dans un recensement des concepts psychanalytiques, nous ayons été amenés à recenser des concepts de Melanie Klein prouve qu'il y a effectivement apport et que ces concepts peuvent actuellement s'intégrer dans l'ensemble de la pensée psychanalytique. Alors, de ces concepts, on peut en citer un certain nombre et tous enrichissent notre vision ou l'approfondissent, si vous acceptez bien que tout enrichissement est en réalité un approfondissement.
Est-ce que précisément, il y en a quelques-uns qui vous paraissent plus fondamentaux que nous pourrions éventuellement passer en revue pour avoir une vision, disons, plus précise de cette.
Eh bien, prenons par exemple une opposition. Justement, là, nous allons nous triver à la limite entre la tradition et la création. Prenons une opposition comme celle de partiel et total, d'objet partiel et d'objet total. Par objet partiel et objet total, on entend bien sûr ce que l'enfant a comme objet, ce qu'il vise dans tel mouvement passionnel, n'est-ce pas ? Objet partiel, ce sera une partie du corps, si vous le voulez, tout bêtement, ça sera le sein, puisqu'on parle sans cesse du sein, ça sera le pénis, mais ça sera n'importe quelle partie séparée du corps de la mère, admettons, ou de l'objet pour l'être humain, qui est souvent primitivement sa mère. Donc, et objet total, ça sera la personne totale. Il est bien évident que ni les termes ne sont foncièrement nouveaux, de partiel et total, ni même dans la pensée psychanalytique, chez Freud, ce n'est absolument nouveau. Freud a parlé parfois de l'objet partiel, et il a parfois opposé justement au moment où l'enfant apercevait sa mère comme totalité, comme être humain, et non plus comme saint ou comme chose qu'on lui donne, mais détachée du corps. Bon. Et je vous citais tout à l'heure Abraham. Abraham a été là aussi la charnière en insistant également sur le moment où, soi-disant, l'enfant passe du partiel au total. Eh bien, Melanie Klein va systématiser cette différence en faisant la base de deux façons d'appréhender le monde complètement différentes pour l'enfant, qu'elle nomme d'une part la position paranoïde, c'est-à-dire le moment où l'enfant se débat avec des objets partiels, et position dépressive, où l'enfant a aperçu enfin que ses partenaires étaient des êtres humains totaux, s'est aperçu que lui-même était un être humain à l'image de ses partenaires, et à ce moment-là, craint de les perdre, d'où le terme de position dépressive. Vous voyez donc cette greffe du klénisme sur des concepts déjà existants, mais cette conceptualisation beaucoup plus vaste, puisqu'elle aboutit à décrire, et là, si vous voulez, je pourrais également vous commenter ce terme de position. Le terme de position est un terme beaucoup plus vaste que le terme de stade. Il ne s'agit pas simplement de quelque chose qui s'est passé une fois et l'enfant a été paranoïaque avant d'être dépressif. C'est quelque chose qui se retrouve à chaque moment dans l'existence d'un être humain. C'est-à-dire qu'à certains moments, il peut fonctionner sur le mode justement de la persécution paranoïde persécutée par des objets partiels Et il peut se situer à d'autres moments dans la position dite dépressive, qui est la position justement où il craint d'avoir endommagé son objet d'amour et où il se sent coupable de l'avoir endommagé, voire il essaye de le réparer, de le remettre sur pied.
Relativement à cette notion d'objet, vous y avez fait allusion tout à l'heure, il y a également cette idée que l'objet se trouve, comme on dit, internalisé, c'est-à-dire mis à l'intérieur. C'est assez spécifique de Melanie Klein.
C'est également très spécifique d'avoir parlé d'objet interne. Parce que si vous prenez toute la psychologie, y compris la psychologie la plus moderne, je pense par exemple à la phénoménologie, voire à un Sartre par exemple, eh bien l'idée que le monde intérieur existe, qu'il soit peuplé d'objets, est quelque chose de foncièrement anti-réel, anti-psychologique. Sartre me dit que lorsque je vise mon ami Pierre absent dans tel café, je n'ai pas en moi un petit ami Pierre, disons, qui serait comme une idole, qui serait comme un morceau de pierre que j'aurais en moi. Morceau de pierre, il y a même un jeu de mots si vous le voulez, parce qu'effectivement chez Melanie Klein, ce petit pierre qui est à l'intérieur de moi est véritablement comme une pierre. Il peut être là comme un corps étranger à l'intérieur de moi, et c'est ce qu'elle appelle les objets internes. Alors là encore, c'est une prise au sérieux de quelque chose qui a déjà été aperçu notamment par Freud. Melanie Klein parle d'objets internes. Freud, dans ses tout premiers débuts, mais ça a été bien oublié depuis, parlait de corps étrangers internes. Corps étrangers internes, vous voyez que c'est déjà quelque chose de très proche. Corps étrangers internes, chez Freud, ça voulait dire quelque chose qui est là en moi. Vous voyez, un corps étranger au sens chirurgical du terme, une balle, si vous voulez, est restée logée dans mon poumon, et elle continue dans mon poumon à m'exciter, à me gêner et à me préoccuper. Eh bien, dans le psychisme, disait Freud, il y a des corps étrangers internes, il y a des balles, il y a des choses qui continuent à me persécuter de l'intérieur. Eh bien, ces corps étrangers internes sont devenus, chez Melanie Klein, les objets internes.
Oui, il y a tout de même différence entre ça et une représentation, qui est plutôt le terme utilisé par Freud, tout de même.
Justement, Freud a été amené à parler de représentation qui ne peut éventuellement nous ramener, en effet, au niveau de la psychologie, de l'intentionnalité, de la visée, mais il a souvent employé un terme comme celui de représentation. La traduction est difficile. Représentation de choses ou représentation chose. En allemand, ce n'est pas tranché. Le terme est Sachvorstellung, qui veut dire à la fois représentation de choses et représentation chose. Vous voyez que dans cette double traduction possible, avec représentation de choses, nous sommes dans la psychologie, la chose est bien là, extérieure, et je me la représente. Mais quand on parle cette fois de représentation chose, c'est la représentation elle-même qui devient une chose à l'intérieur de moi.
Ça se matérialise un peu.
Ça se matérialise tout à fait.
Alors, il y a aussi un autre aspect de l'apport de Melanie Klein qui a été matière à diatribe, c'est le fait qu'il se passerait des choses tout à fait importantes bien avant l'Œdipe, alors que dans la théorie classique, c'est évidemment l'Œdipe qui est le lieu clé.
Justement, ce terme de bien avant l'Œdipe, ce terme de pré-œdipien n'est pas à prendre sans une certaine circonspection. En effet, que dit Melanie Klein pour l'essentiel? Elle ne nous dit pas pour l'essentiel avant l'Œdipe, il s'est passé déjà des choses. Elle le dit parfois, mais ce n'est pas l'accent principal. Elle nous dit, l'Œdipe lui-même est à comprendre, est à percevoir bien plus tôt qu'on ne le croit. Et l'un de ces articles fondamentaux s'appelle « Sur les stades précoces du complexe d'Œdipe ». Loin donc de mettre l'accent sur le pré-œdipien, elle serait plutôt à faire remonter l'Œdipe dans le temps et avoir déjà quelque chose de l'ordre de l'Œdipe chez un enfant extrêmement jeune, puisque dans ses tout derniers textes, elle nous dit tout de go que l'Œdipe commence à 6 mois. Vous voyez bien qu'il ne reste plus beaucoup de place pour le pré-œdipien si on dit que l'Œdipe lui-même commence à 6 mois. Alors, tout ceci, là, je suis dans le dogme clénien pour l'instant. Au-delà de cela, il y aurait à savoir ce que ça veut dire. Je ne suis pas un clénien dogmatique, je vous explique ce que Melanie Klein dit. Je pense que vouloir faire trop de chronologie et vouloir se demander est-ce que l'Édipe commence là, est-ce que avant c'est du pré-édipien, c'est oublier une chose tout de même très simple, c'est que l'Édipe, avant d'exister chez l'enfant, existe déjà d'une part dans la structure familiale et d'autre part existe dans l'inconscient des parents. C'est-à-dire que parler du pré-édipien, en un sens, c'est une absurdité puisque d'emblée, l'enfant se trouve confronté à un univers humain où l'Édipe existe déjà, qu'on le veuille ou non. Bien sûr, il ne le perçoit pas comme tel, mais nous avons l'Édipe, disons, dès la naissance, puisque nous avons le complexe d'Édipe des parents qui est déjà présent.
Dans mes écrits antérieurs, j'ai rendu compte d'une phase de sadisme à son zénith par laquelle passent les enfants au cours de leur première année. Pendant les tout premiers mois de son existence, le nourrisson dirige ses tendances sadiques non seulement contre le sein, mais aussi contre l'intérieur du corps de sa mère. Il désire l'évider, en dévorer le contenu, le détruire par tous les moyens que le sadisme propose. Contribution à l'étude de la psychogénèse dans les états maniaco-dépressifs.
Ah, voilà un texte qui met tout à fait en évidence l'une des caractéristiques de la théorisation kleinienne, c'est l'extraordinaire agressivité, cruauté de la toute petite enfance.
Oui, je crois en effet que c'est un texte qui résonne un peu comme un coup de tonnerre, non pas dans un ciel serein, parce que l'analyse n'est quand même pas un ciel serein, mais c'est un véritable coup de tonnerre. C'est la phrase inaugurale d'un article lui-même inaugural où sont développées justement les notions de phase paranoïde et de phase dépressive. C'est-à-dire que Melanie Klein prend au sérieux et entend retrouver dans la clinique la grande découverte de Freud du dualisme des pulsions de vie et des pulsions de mort. Et non seulement elle entend l'appliquer, mais elle entend, je dirais même, l'inverser, puisqu'elle va mettre l'accent non pas sur la pulsion de vie et sur l'amour, mais sur la pulsion de mort, dont elle nous dit qu'elle précède, qu'elle est beaucoup plus forte aux origines que ne l'est la pulsion de vie. Donc, à la fois une reprise théorique, à la fois un approfondissement clinique et en même temps, je dirais même, un changement de perspective, puisque la mort est placée comme de façon est située comme de façon plus radicale que la vie et que l'amour.
Oui, on peut d'ailleurs penser que ça doit faire largement écho, puisque l'idée reçue, c'est que l'enfant, le nourrisson, est une petite chose adorable, tendre, etc., etc. Elle va là, en dehors même du champ psychanalytique, à l'encontre de l'idée communément reçue.
Oui, remarquez bien que déjà quand Freud nous disait ce même enfant, ce nourrisson, n'est-ce pas, eh bien, il a des érections, il a des orgasmes, et c'est un grand amoureux, c'était déjà assez révolutionnaire par rapport à la vision courante de l'enfant idyllique. Alors là, Klein en remet, puisque ce n'est plus seulement que c'est un grand amoureux et un grand érotique, mais c'est même un grand sadique et un grand meurtrier. Alors, qu'en est-il de cette affirmation par rapport à l'observation? Est-ce que c'est une affirmation qui peut être mise en opposition avec l'observation? Parce que notre observation du nourrisson, elle existe quand même, et nous continuons à voir en effet des nourrissons qui ne sont quand même pas, ni je dirais de grands érotiques, n'exagérons pas, ni à plus forte raison de grands sadiques destructeurs. Et il est remarquable que Melanie Klein elle-même, dans un article qui s'appelle, je crois, quelque chose comme « En observant le nourrisson », est amenée à amender considérablement cette vision. Cette vision est une vision... La vision du sadisme, j'entends, est une vision rétrospective. C'est une vision qui est faite dans l'analyse des enfants, donc au vu et à l'analyse d'enfants de 2 et 3 ans. C'est une reconstruction de leur première année. Alors, comment comprendre qu'à la fois nous puissions de façon indéniable constater que les nourrissons ne sont pas tous comme cela et ne sont jamais quand même aussi violents que cela, même si parfois ils sont rageurs, comment opposer cela et concilier cela avec la théorisation de Klein. Eh bien, je crois que ce qu'apporte Klein, c'est beaucoup plus un modèle théorique et un modèle rétrospectif que véritablement quelque chose qui soit vérifiable dans l'observation. Et ce modèle rétrospectif garde sa vérité, et sa vérité foncière, c'est de nous montrer que l'enfant et le nourrisson est en proie à des pulsions d'une violence extrême, et que forcément à cette violence, il réagit également par la violence, au moins dans son monde fantasmatique.
En effet, on ne voit pas nécessairement le nourrisson exprimer une violence, comme vous dites. Mais on peut effectivement penser tout de même qu'il y a chez lui représentation. Enfin, on peut peut-être parler justement du fantasme de la destruction, de la destructivité. Mais est-ce à dire que la clinique ne fournirait à ce moment-là aucun indice qui permettrait de fonder ce modèle théorique? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part, tout de même, soit dans la clinique enfant, soit dans la clinique adulte, des choses qui peuvent indiquer que ce modèle théorique est juste?
Absolument. Un modèle théorique est construit à distance de l'expérience, mais doit être évidemment fondé sur l'expérience, suscité par elle et en rendre compte. Alors, je vous donnerai un point tout à fait important qui d'ailleurs était aux origines de la pensée de Melanie Klein. Je veux dire la question du surmoi, ce que nous entendons par surmoi en psychanalyse étant l'instance, la partie de notre personne qui en somme prononce les impératifs moraux, les interdictions, tu ne feras pas ceci, tu ne coucheras pas avec ta mère et tu ne tueras pas ton père, disons, pour reprendre les deux grands interdits. Eh bien, comment s'articule là l'observation et deux théorisations qui sont celles de Freud d'une part et de Melanie Klein d'autre part? Au départ, Freud avait apporté une idée qui finalement apparaît comme assez simple et assez admissible. Les interdits que l'être humain fait sien, qu'il intériorise, ce qui devient la voix de sa conscience, n'est pas autre chose que les interdits extérieurs qu'il a entendus autrefois prononcer. Donc, la sévérité de sa conscience morale est fonction de la sévérité de la morale de ce que ses parents lui ont inculqué, tout simplement. Ça a l'air aller de soi. Or, il se trouve que Freud lui-même se voit objecter et s'objecte que ça ne va pas toujours de soi. C'est-à-dire que vous avez des sujets qui ont des interdits extrêmement stricts, et finalement extrêmement névrosant, extrêmement névrotique, des individus extrêmement inhibés par une super morale, disons, une hyper morale, et où on serait bien en peine de montrer que les parents avaient cette hyper morale. Sans aller jusque-là, prenons le cas justement que Freud avait lui-même traité, celui du petit Hans. Eh bien, on s'aperçoit que le petit Hans est confronté à un surmoi finalement assez fort et assez gênant, puisqu'il est forcé de construire toute une phobie pour s'en tirer, et que ses parents et son père, loin d'être de grands interdicteurs, étaient au contraire des gens tout à fait libéraux, imbus des idées libérales que la psychanalyse commençait à l'époque déjà, dans certains milieux intellectuels, à promouvoir. Voyez donc que là, on s'aperçoit que les interdits ne sont pas du tout en rapport avec la sévérité parentale. Eh bien, Melanie Klein intervient dans cette discussion et Freud va en tenir compte. Si vous prenez un texte comme Malaise dans la civilisation, vous y voyez cité en toutes lettres Melanie Klein comme apportant cette idée que souvent les enfants et les êtres humains ont un surmoi d'une sévérité inversement proportionnelle à la sévérité des parents. Alors me direz-vous, d'où vient cette sévérité? Eh bien, c'est là qu'intervient pour Melanie Klein la notion de sadisme. Ce surmoi sévère, ce surmoi féroce, destructeur, ce surmoi qui interdit tout, eh bien, c'est un surmoi sadique. Et ce sadisme n'est pas en relation directe avec le sadisme subi par l'enfant de la part de ses parents, il est en relation avec le propre sadisme de l'enfant. Et c'est sa propre agressivité, sa propre agression qui se trouve en somme séparée des éléments qui pourraient la, la dialectiser, qui pourrait la faire entrer dans un autre contexte, et qui la clive dans une instance qui elle-même devient ce surmoi féroce.
C'est une façon de retourner l'agressivité contre soi.
C'est une façon de retourner l'agressivité contre soi et d'en faire une véritable stature, une véritable statue du commandeur qui devient investi justement de cette sévérité.
Est-ce qu'on ne pourrait pas à présent prendre un tout petit peu de distance par rapport au modèle théorique proprement dit et essayer de regarder la pratique en clinique? Mélanie Klein est associée très essentiellement à la clinique enfantine, à la clinique de l'enfant. Bon, il s'avère que, bien entendu, elle ne s'est sans doute pas préoccupée que des enfants. Et par ailleurs, puisque actuellement la pensée kleinienne est encore vivace, il se peut bien qu'elle soit utilisée aussi bien dans la clinique adulte que dans la clinique de l'enfant. Alors, au niveau de la pratique, est-ce qu'il y a un certain nombre, de la technique même, est-ce qu'il y a des apports spécifiques de Mélanie Klein et quels sont-ils et que peut-on en dire?
Oui, je pense qu'on peut distinguer, je n'aurai pas le temps de le faire dans l'ensemble, mais on peut distinguer des apports que je nommerais relativement positif, et puis certains abus. Comme apport positif, j'en vois tout de suite un, n'est-ce pas, qui est, dans la clinique justement des enfants, l'utilisation du jeu, ou maintenant l'utilisation du dessin. Enfin, il y a toute une série d'utilisations de toute une série de techniques qui sont plus que des apports techniques. C'est l'idée que, finalement, dès le moment où un mode d'expression de l'enfant, ou un comportement même qu'il peut avoir en dehors, puisque l'enfant joue en dehors de la cure, à partir du moment où l'enfant joue dans la cure, dans le cabinet du psychanalyste, ce jeu n'est plus le jeu qu'il va avoir avec ses petits camarades, c'est un discours adressé à quelqu'un. C'est déjà un phénomène de transfert. Et je crois que, même si Klein ne l'a pas dit ou compris comme cela, eh bien, c'est là son apport essentiel, de considérer que sont des adresses aux psychanalystes tous les modes expressifs qui peuvent ne pas être de la verbalisation et qui sont tous pris dans le mouvement de transfert. Alors ça, je crois que c'est un apport très essentiel par rapport à quelqu'un, encore une fois, comme Anna Freud, qui ne cessait de dire « mais le jeu a bien d'autres fonctions que d'exprimer les fantasmes, etc. » Ce que Anna Freud ne voyait pas, c'est que dans la cure, le jeu a une fonction de discours.
La situation crée cette fonction.
La situation crée, fait que le jeu, si on peut dire, pivote sur lui-même et de fonctionnel devient adresse. Vous voyez qu'il y a des apports positifs qui sont maintenant tellement intégrés qu'on peut se dire que c'est là devenu une sorte de banalité. Encore faut-il les redire et exprimer en quoi c'était des apports.
Après cette introduction de Jean Laplanche, nous allons entrer maintenant dans un discours un peu plus technique, avec Jacques Golbeck, qui est d'ailleurs le traducteur pour la revue Psychanalyse à l'université des inédits en français de Mélanie Klein, auquel il a déjà été fait allusion, et également avec Jean-Michel Petot, qui lui est l'auteur de deux volumes importants publiés chez Duno sur Mélanie Klein. Alors, avant d'entrer dans le détail, Jacques Golbeck, parlez-nous un peu de ces inédits en français, et notamment sur le développement du fonctionnement psychique qu'on aura à citer partiellement tout à l'heure.
C'est, me semble-t-il, l'un des derniers articles de Melanie Klein, prononcé au 20e congrès international de l'Association de psychanalyse en 1957, et je pense qu'on peut le considérer comme une synthèse de l'œuvre de Klein, d'autant plus intéressante qu'on sait qu'elle a laissé assez peu d'écrits purement théoriques.
C'est un texte qui a pour intérêt fondamental et original d'être un texte théorique, un texte de métapsychologie, ce qui est rare dans les écrits de Klein, qui se réfère toujours à la clinique, et un texte qui marque nettement les positions de Klein par rapport à celles de Freud, notamment concernant l'appareil psychique, concernant le moi et la formation du surmoi. Et c'est un texte aussi qui marque un certain nombre de retours de Klein concernant des positions antérieures, en particulier la possibilité d'intégration dès le début de la formation du surmoi et qui insiste sur la persistance de ce qu'elle appelle un surmoi archaïque, cruel et sévère.
Jean-Michel Petot, quel est, à votre avis, le sens de cette recrudescence de publications, dont en particulier les deux volumes que vous avez publiés chez Duno ?
Très difficile à interpréter globalement. Je crois qu'il s'agit de la convergence d'événements assez séparés. L'approche du centenaire, ou plus exactement le fait que nous sommes dans l'année du centenaire de la naissance de Melanie Klein, y est pour quelque chose, mais je crois que plus profondément, en ce moment, avec la disparition progressive du règne de la pensée lacanienne sur la pensée psychanalytique française, on voit commencer l'apparition d'un intérêt pour des formes de pensée qui avaient été jusqu'alors révérées, mais révérées de très loin. Et en outre, je crois que ce qui peut-être maintenant commence à montrer aux psychanalystes, à ceux du moins qui s'intéressent aux enfants réels, à ceux qui s'intéressent à la pédiatrie, à ceux qui s'intéressent à la psychopathologie du nourrisson et même à la psychopathologie du nouveau-né, ben on s'aperçoit que finalement, Melanie Klein, dans un langage parfois obscur, sans avoir peut-être toujours les mêmes préoccupations qu'ont maintenant les pédiatres qui s'occupent de nouveau-nés, avait anticipé beaucoup de choses qu'on redécouvre maintenant comme si elles étaient absolument neuves.
Alors, pour pouvoir considérer cette fois l'actualité d'une façon, je dirais, un peu plus sérieuse, c'est-à-dire l'aspect encore opératoire de ce que Melanie Klein a pu proposer, est-ce qu'il n'est pas intéressant de voir comment elle a été amenée à se préoccuper justement de ces problèmes au point de devenir précurseur? Il y a quelque part une vocation là-dessous.
Absolument. Je crois que la rencontre de Melanie Klein avec la psychanalyse ne peut se comprendre que si on tient compte de deux choses. D'une part, son ambition, de sa vocation intellectuelle contrariée dans sa jeunesse, d'une part, et des rigueurs de la condition féminine dans le monde où elle évoluait, dans l'Autriche-Hongrie de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Melanie Klein était la quatrième enfant d'un médecin viennois, israélite, chroniquement impécunieux, qui avait acquis, alors que Melanie Klein était adolescente, une prospérité très provisoire, grâce à des circonstances un peu fortuites, mais très rapidement ce père, qui était extrêmement âgé, est décédé. Melanie Klein, qui avait dû batailler très fort pour faire des études secondaires classiques au gymnase, Melanie Klein qui souhaitait faire des études médicales, Melanie Klein qui avait peut-être déjà songé à une vocation psychiatrique, se trouve âgée d'environ 20 ans, ayant dû abandonner ses études secondaires parce que sa famille n'avait plus de moyens, fiancée à un jeune homme qui était ingénieur chimiste et avec lequel elle va donc se marier très rapidement et qu'elle va accompagner dans ses différentes résidences professionnelles dans des petites bourgades de l'actuelle Pologne, de l'actuelle Tchécoslovaquie. toutes régions qui étaient à l'époque des régions soit allemandes, soit austro-hongroises. Elle va vivre une existence de ménagère, de femme au foyer, de femme d'ingénieur à laquelle elle ne s'était pas préparée. Elle ne s'était en tout cas pas préparée à vivre cela dans des pays qui lui apparaissaient à elle viennoises, jeune fille de la capitale, tellement perdue, tellement isolée, tellement campagnarde. Et c'est d'une manière tout à fait fortuite, d'une certaine manière, peut-on dire qu'elle est venue à la psychanalyse. Il semble bien qu'elle soit venue à la psychanalyse à peu près à l'époque où, en 1914, elle habitait à ce moment-là à Budapest. D'une part, son dernier fils, Erich, est né, à peu près au moment où mourait sa mère à elle, sa mère qui, depuis quelques années, habitait avec elle. Elle semble à ce moment-là avoir fait une dépression. Et cette dépression semble l'avoir conduit sur le divan de Ferenczi, qui était à Budapest le principal des disciples de Freud. Comment est-elle venue de la position de patient, comment est-elle passée de la position de patient à la position de psychanalyste? Encouragée par Ferenczi, elle a d'abord entrepris l'éducation sexuelle de son plus jeune fils. Et c'est cela qu'il faut souligner, je crois, c'est que le but qu'elle se fixait en entreprenant cela, c'était de libérer par avance l'enfant de toutes les inhibitions intellectuelles. Faire son éducation sexuelle, c'était empêcher le développement et l'intervention du refoulement qui aurait pu entraver le développement de sa curiosité. Donc, Melanie Klein, à l'inverse de Freud, neurologue arrivé au moment où il invente, où il découvre la psychanalyse. Et dans une position tout à fait particulière, c'est une femme qui ne s'intéresse pas au soulagement d'une misère sexuelle, mais qui cherche à prévenir à l'avance une misère intellectuelle qu'elle redoute chez son fils parce qu'elle l'a elle-même subie.
Le garçon n'atteindra définitivement une position hétérosexuelle qu'à la condition d'avoir vécu normalement et dépassé la phase féminine primitive. Il lui arrive souvent, comme je l'ai indiqué ailleurs, de compenser par une exagération de son orgueil phallique, transposé dans la sphère intellectuelle, les sentiments de haine, d'angoisse, d'envie et d'infériorité issus de sa phase féminine. Ce déplacement est à l'origine d'une attitude très hostile de rivalité à l'égard de l'autre sexe et joue chez l'homme le même rôle dans la formation du caractère que chez la femme, l'envie du pénis. L'angoisse extrême qu'il éprouve en raison de ses attaques sadiques contre l'intérieur de la mère perturbe gravement ses rapports avec les femmes. Mais c'est précisément son angoisse et sa culpabilité une fois tempérées qui donneront lieu aux divers éléments de ses fantasmes de réparation et à une connaissance intuitive de l'âme féminine. La psychanalyse des enfants.
Vous avez dit que elle a débuté sa vie dans un monde où la condition féminine était particulièrement pénible. Est-ce que le fait qu'elle se penche sur la psychanalyse ne l'amène pas justement à avoir des conceptions assez différentes de celles du père de la psychanalyse, précisément parce que c'est une femme?
Indiscutablement. Et il faut souligner qu'elle a une position qui, à cet égard, est tout à fait originale. Originale dans la psychanalyse et originale parmi les femmes psychanalystes. Un certain nombre de femmes psychanalystes ont totalement refusé la conception freudienne de la sexualité féminine. Freud, en effet, on le sait bien, s'intéressait avant tout à la sexualité masculine, à la sexualité du garçon. Quant à ce qui peut en être de la sexualité féminine, la question venait après. Et elle ne manquait jamais de susciter chez lui une certaine perplexité. Sa théorie de l'envie du pénis, qui est bien connue, a été rejetée par la plupart des femmes psychanalystes, sans appel. Melanie Klein a une position à cet égard tout à fait originale, puisque d'un côté, elle conserve la notion de l'existence régulière, importante et déterminante pour un bon nombre de fantasmes et de contenus psychiques de l'envie du pénis, mais en même temps, elle relativise, malgré tout, l'importance de cette réalité dans la sexualité féminine. Elle la relativise triplement. Et c'est ça qui est intéressant. Premièrement, elle le relativise en montrant qu'il ne s'agit, somme toute, dans cette envie du pénis, que d'une phase qui est, pour elle, seconde. Pour Freud, l'envie du pénis fournit la motivation principale de l'entrée de la fillette dans l'Édipe. Pour Melanie Klein, l'Édipe a commencé bien avant l'envie du pénis, et la phase d'envie du pénis est une phase de refoulement du premier Édipe, de l'Édipe archaïque. Principe de relativisation de cette envie du pénis, c'est que il y a envie du pénis chez la fillette, mais corrélativement, il y a envie de la maternité chez le garçon, envie de la fonction maternelle, envie de la capacité de porter et de mettre au monde des enfants. Et cette envie forme le pendant et comme le symétrique exact de l'envie du pénis chez la fillette. Et enfin, de toute manière, cette envie du pénis comme cette envie de la maternité, dans l'un et l'autre sexe, ne sont pour elle que des élaborations relativement tardives d'une envie primaire qui est essentiellement une envie orale, une envie du sein maternel. Alors là, on voit que les valeurs sont renversées. À ce phallocentrisme, comme on a souvent dit de Freud, se substitue une sorte centration de tout sur le sein et sur les valeurs maternelles.
Vous venez de parler de la sexualité féminine chez Klein et de l'importance qu'elle y accorde et de l'originalité qu'elle a pu apporter dans ce domaine, laissé par Freud comme continent noir. Mais en même temps, vous avez insisté sur l'envie et l'envie primaire du sein. Par ailleurs, nous savons l'importance que Klein attache à l'angoisse, à la pulsion de mort. Il semble que dans le système kleinien, le débat avec l'angoisse, le débat avec la pulsion de mort passe au premier plan. Et je voudrais vous demander quelle est, à partir de ces notions nouvelles et fondamentales chez Klein, le statut de la sexualité.
C'est vrai qu'on a souvent reproché à Melanie Klein de mettre la sexualité en quelque sorte à la remorque de l'angoisse et de la pulsion de mort. L'angoisse est chez Melanie Klein un aiguillon, une incitation à se livrer à des activités sexuelles. Pourquoi ? Parce que les activités sexuelles, par le plaisir, par la gratification qu'elles apportent, ont une valeur de réparation. Elles donnent la preuve que tout n'est pas catastrophique, elles donnent la preuve que l'objet n'est pas détruit, elles donnent la preuve que le moi n'est pas en morceaux, qu'il est entier et qu'il est encore capable d'éprouver du plaisir. À ce titre, la sexualité, comme toutes les réalisations positives de l'être humain, apparaît comme un instrument privilégié de la lutte contre l'angoisse et contre la pulsion de mort.
Nous avons déjà vu la part qui revient, même chez le sujet normal, au contrôle de l'angoisse dans l'acte sexuel, en plus de sa motivation libidinale. Il faut ajouter un autre mobile aux activités génitales de l'être humain, celui de réparer les torts causés par ses fantasmes sadiques. Avec la recrudescence des pulsions génitales, le moi répond par moins d'angoisse et plus de culpabilité aux demandes du surmoi. Et l'acte sexuel, en raison de ses liens avec les premiers fantasmes sadiques, devient le moyen de réparation par excellence envers l'objet lésé. Les diverses activités de l'individu, ses sublimations, ainsi que le cours et l'issue de son développement sexuel, dépendront pour une large part de la nature et de l'importance de ces fantasmes de réparation qui doivent correspondre aux destructions imaginaires dont il est l'auteur. La psychanalyse des enfants.
Lorsque vous dites que la sexualité sert à réparer et qu'elle est une façon de combattre l'angoisse, est-ce que vous ne pensez pas qu'on assiste ici, dans le système de Klein, à une mise au second plan du primat de la sexualité qui est fondamental chez Freud, c'est-à-dire est-ce qu'on n'assiste pas à un mouvement de résistance au primat de la sexualité qui est très courant chez les disciples de Freud et chez les continuateurs de Freud. Est-ce que ce n'est pas chez Klein l'angoisse qui est au premier plan? Et par exemple, concernant l'Œdipe, il n'y a plus chez Melanie Klein de primat de l'Œdipe, hein, il y a un primat de la position dépressive. Est-ce que ce n'est pas là quelque chose qui est comme une preuve de la mise en quelque sorte au second plan de la sexualité?
Il y a bien des choses dans votre question. D'abord, la sexualité pour Melanie Klein n'est pas seulement réparation. Il n'y a pas sexualité seulement au service de la réparation. La sexualité est déjà là. Elle est déjà là, mais dans un second temps, elle est utilisée aussi à des fins de réparation. C'est-à-dire que dans l'activité sexuelle, il y a d'abord, bien sûr, poursuite de buts sexuels, mais il y a une surdétermination. Au but sexuel s'ajoutent des buts de réparation. Deuxième point, la sexualité. Est-ce que Melanie Klein aurait sous-estimé la sexualité au profit des pulsions de mort? Je ne le pense pas. Qu'est-ce que le primat de la sexualité? Pour Freud, c'est le primat d'une sexualité qui est intriquée avec des éléments agressifs. Pour Freud, pendant très longtemps, la notion de pulsion de mort n'a eu aucune application clinique. Tout ce que nous appelons agressivité, tout ce que Melanie Klein rattache directement à la pulsion de mort, faisait partie, pour Freud, de la sexualité. Il n'y a ici qu'une divergence dans le vocabulaire. Mais les réalités concrètes dont on parle, l'Œdipe, la sexualité féminine, sont toujours les mêmes. Ce sont les mêmes qui sont abordées par Melanie Klein et par Freud. Et enfin, vous me parler d'un relatif effacement de l'Œdipe. Alors, c'est vrai que Melanie Klein, au niveau de ses déclarations théoriques, accorde moins d'importance à l'Œdipe que Freud. C'est vrai qu'elle met en avant ce qu'elle appelle la position dépressive. C'est vrai qu'elle a élaboré cette théorie d'après laquelle le nourrisson, aux alentours de 6 mois, passe par une phase de peur et même peut-être de dépression face à la perte imminente de l'objet de sa mère qui pourrait disparaître et ne parvenir. Et c'est vrai qu'elle dit c'est là le stade ou la position cruciale dans le développement de l'enfant. Seulement, pour elle, c'est le moment même où commence le complexe d'Œdipe. Et cette position dépressive qui est peur de perdre la mère devient très rapidement aussi peur de perdre le père. Et c'est dans le cadre, dans la matrice de la position dépressive que se développe progressivement l'Œdipe. Et pourquoi et comment sort-on de la position dépressive? On sort de la position dépressive pour différentes raisons, mais l'une d'entre elles, c'est que l'angoisse dépressive se modifie, elle s'atténue à mesure qu'elle est vécue vis-à-vis non plus d'un objet mais vis-à-vis de plusieurs objets. Elle s'atténue à mesure que l'enfant grandit et qu'il perçoit les objets plus exactement. Elle s'atténue à mesure que l'enfant grandit, c'est-à-dire se développe sexuellement, et que des pulsions génitales commencent à prendre le pas sur les pulsions sadico-orales. Et tout cela se fait comment? Se fait par et dans le complexe d'Œdipe. C'est bien qu'il y a 3 choses qui, pour Melanie Klein, sont exactement contemporaines, et pour ma part, je n'hésiterai pas à dire identiques. C'est entre 12 mois et 5 ans, le développement de l'Œdipe, qui est et qui sert à la perlaboration de la position dépressive, processus qui coïncide avec la névrose infantile.
Et c'est le dépassement d'un paradoxe apparent, finalement, ce que vous expliquez là. Mais cependant, l'Œdipe ne se situe plus, alors à ce moment-là, à un point temporel précis, il a l'air de s'épandre et de remonter dans le temps vers des âges de plus en plus jeunes.
Oui, il remonte dans le temps. Pour Freud, l'âge de l'Œdipe, c'est, nous dit-il, entre la 3e et la 5e année. C'est-à-dire, si je compte bien, quand même entre 2 et 5 ans. Nous avons des textes de Freud qui disent ça. Dans son auto-analyse, il a retrouvé des émois œdipiens qu'il avait éprouvés à l'âge de 18 mois. Il ne l'a pas généralisé, mais il l'a éprouvé, il l'a reconnu sur lui-même. Mélanie Klein observe chez des enfants très jeunes, chez des enfants au début de leur troisième année, non seulement des vécus édipiens, mais grâce à la psychanalyse des enfants, elle observe également des souvenirs de vécus édipiens qui remontent à un an, ou parfois à 18 mois. Et par ailleurs, dans la dernière partie de sa vie, elle s'est énormément livrée aux observations directes de nouveau-nés qui lui permettent de mettre en évidence, par exemple, des conduites tout à fait caractéristiques de séduction du père par les petites filles. C'est-à-dire peut-être plus net chez les filles que chez les garçons.
Le travail analytique a montré que des bébés de quelques mois s'adonnent certainement à la construction de fantasmes. Je crois qu'il s'agit de l'activité psychique la plus primitive et que ces fantasmes sont dans le psychisme du nourrisson presque dès la naissance. Il semblerait qu'à chaque stimulus que l'enfant reçoit, il réponde immédiatement par des fantasmes. Aux stimuli déplaisants, y compris la simple privation, par des fantasmes d'une nature agressive, aux stimuli gratificateurs, par ceux qui convergent sur le plaisir. Comme je l'ai dit auparavant, l'objet de tous ces fantasmes, c'est au début le sein maternel. Il peut sembler curieux que l'intérêt du tout petit enfant doive se limiter à une partie de la personne plutôt qu'à sa totalité. Mais on doit avant tout avoir présent à l'esprit ce fait. L'enfant a une capacité physique et psychique de perception extrêmement peu développée à ce stade. Et donc, nous devons nous souvenir de ce fait important entre tous, que le petit enfant ne se soucie que de sa gratification immédiate ou du manque de celle-ci. Freud a appelé cela le principe de plaisir des plaisirs. Ainsi, le sein de la mère, qui donne la gratification ou la refuse, se trouve pourvu dans le psychisme de l'enfant des caractères du bien et du mal. Dès lors, ce qu'on pourrait appeler les « bons saints » deviennent les prototypes de ce qui, tout au long de la vie, sera trouvé bon et bénéfique. Tandis que les « mauvais saints » représentent tout ce qui est mauvais et persécuteur. Le sevrage.
Quelle est justement la position, je dirais, théorique et clinique, la position théorique et pratique de Mélanie Klein, relativement justement au fantasme, alors, c'est-à-dire à la situation même du fantasme?
Oui, et bien là, c'est un grand paradoxe, voyez-vous. Parce que d'un côté, Mélanie Klein, comme le disait Jacques Goldberg, a eu cette démarche qui est étonnante pour un psychanalyste français en particulier, de vouloir vérifier par l'observation directe ces affirmations, mais en même temps, et ça je pense que vous en serez d'accord, elle a été peut-être de tous les psychanalystes celle qui a accordé au fantasme le primat le plus absolu. Sur ce point, je pense qu'elle va encore plus loin que Freud. Freud ne donne pas au fantasme ce pouvoir d'infiltrer la totalité de nos actions, la totalité de nos pensées et de nos sentiments. Mais ici, on rejoint ce que disait tout à l'heure Jean Laplanche sur ce primat de la réalité psychique. C'est vrai que chez Mélanie Klein, la réalité psychique est quelque chose d'absolument premier. Mais je ne peux pas le suivre tout à fait quand il s'élève contre la volonté, comme il dit, de psychologiser cette réalité psychique. Car revenons au texte de Mélanie Klein. Qu'est-ce qu'une imago? Qu'est-ce que ces imagos qui sont au cœur de la réalité psychique? Bon. Quand l'enfant a 4 ans et que sa mère, bon, très gentille, va le réprimander un tout petit peu pour quelques petits délits, l'enfant a peur d'être dévoré, attaqué sauvagement par une mère persécutrice. Cette mère persécutrice appartient, nous dit-on, à la réalité psychique. Et elle est complètement différente de la mère réelle. Mais d'où elle vient, cette mère sauvage des fantasmes? Elle vient du passé de l'enfant. Elle vient du passé de l'enfant, et je n'hésite pas à dire qu'elle a été, en un certain sens du mot, à un certain moment, quand il avait moins de 12 mois, sa mère réelle. La réalité psychique, c'est quelque chose qui est le produit de la perception que le petit enfant a de la mère réelle. Et cette perception est déformée, d'une part, par sa peur, mais aussi, non pas déformée, mais encore informe du fait de l'immaturité de ses appareils perceptifs et du fait de l'immaturité de ses appareils cognitifs. En ce sens, le fait qu'il y ait une réalité psychique s'enracine sur le fait qu'il y a un développement progressif de l'appareil psychique, de ses capacités cognitives, perceptives, motrices, etc.
Un autre point capital de la découverte de Klein, c'est la formation du symbole qui structure le sujet. Et aujourd'hui, une des thèses, parmi les thèses qui expliquent la schizophrénie, c'est l'absence de symbolisation chez le schizophrène et chez les psychotiques. Klein, déjà, en 1929, à propos de l'observation de Dick, observation qui reste assez confuse dans ses formulations, fait référence à l'importance de la formation du symbole et elle explique l'autisme, le désintérêt pour le jeu, le manque de relation d'objet du petit Dick par l'absence de symbolisation.
C'est un texte précurseur, hein, puisque au fond vous venez de prononcer le mot autisme et elle décrit en effet un cas d'autisme et là on est à peu près 15 ans avant Kanner. Mais c'est vrai qu'il y a une théorie du symbolisme qui s'esquisse là-dedans, mais finalement c'est Anna Segal que vous connaissez bien qui l'a définitivement élaboré.
Oui, Anna Segal dans un article de 1957 traduit en 1970, note sur la formation du symbole, paru dans la Revue française de psychanalyse, parle d'équation symbolique entre l'objet original et le symbole dans le monde extérieur. Elle donne un exemple très simple.
La compréhension et l'interprétation du symbolisme inconscient est l'un des principaux instruments du psychologue. Il est souvent confronté à la tâche de comprendre et de reconnaître la signification non seulement d'un symbole particulier, mais aussi de tout le processus de la formation du symbole. Ceci s'applique particulièrement au travail effectué avec des patients qui présentent un trouble ou une inhibition dans la formation ou la libre utilisation des symboles, comme par exemple des patients psychotiques ou schizoïdes. Prenons l'exemple très élémentaire des deux patients suivants. L'un, que j'appellerai A, était un schizophrène placé en hôpital psychiatrique. Son médecin lui demanda un jour pourquoi, depuis qu'il était malade, il avait cessé de jouer du violon. Il répliqua avec une certaine violence « Quoi ? Vous pensez que je vais me masturber en public ?» Un autre patient, B, rêva une nuit qu'il était en train de jouer un duo de violon avec une jeune fille. Il associa sur le tripotage, la masturbation, etc. Il en ressortait clairement que le violon représentait ses organes génitaux et que jouer du violon représentait un fantasme masturbatoire de relation avec la jeune fille. Voilà donc deux patients qui apparemment utilisent les mêmes symboles dans la même situation. Un violon représentant les organes génitaux masculins et le fait de jouer du violon représentant la masturbation. Cependant, le mode de fonctionnement des symboles est très différent dans les deux cas. Pour A, le violon était devenu si complètement équivalent à ses organes génitaux que le toucher en public s'avérait impossible. Pour B, à l'état de veille, jouer du violon était une sublimation importante. Nous pourrions dire que la principale différence entre eux réside dans le fait que pour A, la signification symbolique du violon est consciente, alors que pour B, elle est inconsciente. La différence essentielle entre l'utilisation que faisaient les patients A et B du violon comme symbole des organes génitaux masculins ne réside pas dans le fait que dans un cas, le symbole était conscient et que dans l'autre, il était inconscient, mais bien dans le fait que dans le premier cas, le violon était ressenti comme étant les organes génitaux, alors que dans le deuxième cas, il était ressenti comme les représentants. Anna Siegel, note sur la formation du symbole, Revue française de psychanalyse, 1970.
Ce qui est important aussi, c'est que pour Klein, la symbolisation va avec le début de la sublimation et il existe déjà donc une symbolisation et un début de sublimation dans le jeu.
Non, mais alors vous voyez, vous faites cette distinction à la suite d'Anna Segal entre l'équation symbolique et le symbole. L'équation symbolique vient avant le symbole. Dans l'équation symbolique, la chose symbolisée et le symbole sont confondus. Dans le symbole, il y a au contraire cette distinction. Le grand mérite d'Anna Segal, c'est d'avoir mis l'accent sur cette distinction et d'avoir relégué à la place qui leur revient et qui n'est pas très grande, les distinctions antérieures, portant essentiellement sur l'idée que les symboles étaient inconscients ou pas. Mais la distinction confusion discrimination entre symboles et choses symbolisées, est-ce que ça n'est pas quelque chose qui a à voir avec le développement des appareils cognitifs? Est-ce que ça n'est pas parce que l'enfant de 6 mois est encore incapable d'accéder à la notion d'objet distinct que, justement pour lui, toutes les parties du corps s'équivalent et se confondent dans une indifférenciation syncrétique dont nous devons la description magistrale à Vallon, à un psychologue?
Herr Siegel insiste sur cette distinction nécessaire entre le sujet et l'objet, hein, qui permet précisément de passer de l'équation symbolique à la symbolisation et donc à la sublimation.
Il y a chez l'enfant une volonté de symboliser, une tendance à symboliser. À 8 mois, elle ne peut s'exprimer que sous forme d'équation symbolique. À 3 ans, elle s'exprime sous forme de symbole.
La possibilité de maintenir et d'accroître la force du moi dépend en partie de facteurs externes, en particulier de l'attitude de la mère envers le nourrisson. Cependant, même quand la pulsion de vie et la capacité d'aimer prédominent, des pulsions de destruction sont encore défléchies au dehors et contribuent à créer des objets persécuteurs et dangereux qui sont alors réintrojectés. De plus, les processus originaires d'introjection et de projection amènent des changements constants dans la relation du moi à ses objets, avec des fluctuations entre des objets internes et externes, bons et mauvais, en rapport avec les fantasmes et les émotions du nourrisson, aussi bien que sous l'influence de ses expériences réelles. La complexité de ces fluctuations engendrées par l'activité incessante des deux pulsions sous-tend le développement du moi dans sa relation au monde extérieur, aussi bien que l'édification du monde interne. Le bon objet intériorisé forme donc le noyau du moi autour duquel celui-ci s'accroît et se développe, car lorsque le moi est soutenu par le bon objet intériorisé, il est plus apte à maîtriser l'angoisse et à protéger la vie, en liant par la libido des parties de la pulsion de mort travaillant au-dedans. Sur le développement du fonctionnement psychique, revue Psychanalyse à l'université, décembre 1981.
Depuis quelque temps, il est finalement beaucoup question dans votre discussion d'objets, de l'importance et de l'influence de l'objet. Alors, est-ce qu'on peut maintenant aborder la relation qu'il y a entre l'objet et le sujet ?
Nouveau paradoxe. Nouveau paradoxe parce que Melanie Klein a considéré que le moi se construit sur et autour de l'intériorisation du bon objet primordial, c'est-à-dire le sein, et c'est-à-dire pas seulement peut-être le sein, mais la mère elle-même. Il est donc absolument indispensable qu'il y ait, comme le disent les psychologues, un maternage suffisamment bon pour que l'enfant puisse se développer, puisse former son moi, puisse développer sa personnalité. L'apport des facteurs externes, l'apport de la mère, est ici quelque chose d'absolument décisif. Mais, cela étant, des facteurs internes, et dans l'esprit de Melanie Klein, des facteurs internes, ça veut dire ici des facteurs innés, des facteurs qu'elle appellerait constitutionnel et qui lui est arrivé une fois même d'appeler instinctuel, il faut qu'il y ait, pour que cette rencontre se fasse, un mouvement spontané, naturel, inné de l'enfant vers sa mère. Le nouveau-né a besoin de soins maternels, il attend ses soins maternels, il a une orientation spontanée vers sa mère, et cette orientation spontanée vers sa mère se traduit par des efforts pour la saisir, pour la contempler, pour observer son visage, pour la fixer.
Selon moi, le nourrisson a une connaissance innée et inconsciente de l'existence de sa mère. Nous savons que les jeunes animaux se tournent immédiatement vers leur mère et trouvent chez elle de quoi se nourrir. L'animal humain n'est pas différent à cet égard, et ce savoir instinctif constitue le fondement de la relation originelle. Le bébé, à peine âgé de quelques semaines, lève déjà les yeux vers le visage de sa mère, reconnaît ses pas, le contact de ses mains, l'odeur et le contact du sein ou du biberon qu'elle lui donne. Autant de signes qu'une relation, pour primitive qu'elle soit, est instaurée. Le nourrisson n'attend pas seulement d'être nourri par sa mère, il désire en être aimé et compris. Dans les stades les plus précoces, la mère exprime son amour et sa compréhension par la façon dont elle s'occupe de son bébé. Il s'instaure ainsi une sorte d'unité inconsciente fondée sur le rapport qui se crée entre l'inconscient de la mère et celui du nouveau-né. Le sentiment d'être compris qu'éprouve le nourrisson sous-tend la première relation fondamentale de sa vie. En même temps, la frustration, le malaise et la douleur, le tout vécu comme persécution, se mêlent au sentiment à l'égard de la mère, qui au cours des premiers mois représente pour l'enfant la totalité du monde extérieur. Tant le bon que le mauvais lui semble provenir d'elle. Il en résulte une attitude ambivalente, même dans les meilleures conditions possibles. Les racines infantiles du monde adulte.
Vous dites que le maternage bon est important. Vous dites que, d'autre part, il y a des facteurs internes innés. Et dans votre livre, vous parlez beaucoup de facteurs de dosage. Dosage entre pulsion de vie et pulsion de mort. Comme s'il y avait une certaine quantité, c'est une métaphore peut-être, une métaphore énergétique hein, qui est commode, une certaine quantité de pulsions de vie et de pulsions de mort que le moi doit maîtriser, quantité qui serait en quelque sorte donnée une fois pour toutes et qui serait innée. On peut se demander à partir de là quel est effectivement le rôle de l'acquis. Est-ce que la façon même dont le nourrisson va être en quelque sorte réceptif, accessible au maternage bon, n'est pas déjà en quelque sorte, comme on dirait aujourd'hui, programmé, prédéterminé, prédonné ?
Encore un paradoxe, mais cette fois, c'est peut-être pas un paradoxe aussi fécond que les précédents. Je crois que c'est là surtout un embarras de Mélanie Klein. Il y a une contradiction, je crois qu'il faut se contenter de constater cette contradiction. Car je ne pense pas qu'elle s'en explique d'une façon véritablement résolutrice. Une contradiction entre le militantisme thérapeutique de Mélanie Klein, elle voulait soigner tout le monde, y compris les schizophrènes peut-être les plus irréversiblement atteints, et d'autre part ce qu'il faut bien appeler ce déterminisme, ce constitutionnalisme, qui, appliqué à la lettre, laisse peu d'espoir dans de pareils cas.
Concernant le militantisme thérapeutique de Klein, dont vous venez de parler, il y a chez Klein sans cesse le terme de renforcement du moi. Est-ce que vous ne pensez pas, d'une part, qu'on n'ouvre pas là la voie à ce qu'on a appelé par la suite l'ego psychology ? Est-ce que vous ne pensez pas, par ailleurs, que ça ne conduit pas à une thérapie à visée adaptative et normative ? C'est-à-dire constituer un moi fort, et un moi fort en particulier en identification avec le moi fort de l'analyste, ce qui a été vigoureusement combattu par Lacan en particulier.
Alors là, je crois que le risque est nul. La force du moi chez Mélanie Klein, elle est double. Il y a deux forces du moi, à deux niveaux distincts. Un premier niveau, le moi est fort contre l'angoisse, contre la pulsion de mort. Et cette force qui est celle du moi schizoïde, c'est celle qui lui permet de rejeter, de cliver, de scotomiser, comme on dirait, d'un mot peut-être pas très heureux, les contenus psychiques qui sont les émanations de la pulsion de mort. Ce moi-là construit sa force sur une exclusion du non-moi, sur une exclusion de tout ce qui, dans le self, dans le soi, n'est pas le moi. Mais ce moi, fort, c'est un moi schizoïde, c'est un moi maniaque. Et le but de la psychanalyse, pour Melanie Klein, c'est de débloquer l'élaboration et la perlaboration de la position dépressive. Et la force du moi qui est recherchée à ce moment-là, c'est une force qui est en même temps profondeur et richesse du moi, c'est-à-dire ouverture à l'imaginaire, ouverture à la dimension fantasmatique, ouverture aux pulsions. Et cette force du moi qui est profondeur et richesse est sans aucun rapport avec une visée d'adaptation à un réel extérieur.
Voici de nouveau avec vous Jean Laplanche pour tenter une conclusion à cette émission. Alors, il va de soi d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'une conclusion concernant l'œuvre de Melanie Klein qui reste ouverte et vivante. D'ailleurs à ce propos, je voudrais préciser que nous sommes tout à fait prêts à France Culture à rouvrir le débat si l'occasion ou la demande se fait jour. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit et encore moins de l'avoir dit entre guillemets objectivement. On a entendu un certain nombre d'opinions nuancées, quelque peu différentes. Elles se sont exprimées ici et par conséquent, la conclusion que nous allons tenter maintenant reste de même nature, c'est-à-dire ouverte. Et c'est pourquoi j'ai envie de vous interroger sur vos intérêts personnels, Jean Laplanche, vos intérêts personnels pour l'œuvre de Melanie Klein, concernant aussi bien d'ailleurs ses propos théoriques que sa pratique clinique.
Eh bien, je vous dirai, ou je le répéterai, je ne suis pas un clénien. Je ne l'ai jamais été, et si je prends intérêt à Melanie Klein, c'est dans la mesure où j'y trouve une grande pensée qu'on peut essayer de faire, comme je le disais, travailler. Alors, quel a été le point sur lequel j'ai essayé de faire travailler Melanie Klein? Eh bien, cela recoupe mes intérêts pour ce qu'on peut appeler, disons, la théorie générale des pulsions dans la psychanalyse. La théorie générale des pulsions, dans la dernière mouture de la psychanalyse, c'est l'opposition entre pulsion de vie et pulsion de mort. Or, ayant moi-même essayé d'apporter une théorisation de cette opposition entre pulsion de vie et pulsion de mort, essayer de comprendre à quoi elle correspondait, j'ai été curieux de voir ensuite à quoi elle correspondait chez Melanie Klein et à voir comment les deux idées pouvaient se recouvrir. Si vous voulez, pour dire ce que je pense fondamentalement de pulsion de vie et pulsion de mort, je pense que dans le freudisme et dans la psychanalyse, la pulsion de mort est la réaffirmation, non pas de quelque chose d'opposé à la sexualité, mais du côté le plus radical de la sexualité elle-même. Je pense que la pulsion de mort est une réaffirmation des aspects les plus anarchiques de la sexualité, les plus destructeurs de la sexualité elle-même. Si bien que personnellement, j'aime à prononcer le dualisme de pulsionnel de la façon suivante, pulsion sexuelle de mort et pulsion sexuelle de vie. les rangeant toutes les deux sous le chef de la sexualité. L'une, la sexualité la plus primaire et la plus destructrice pour le moi, et l'autre, la sexualité d'aspect plus constructif, qui n'est pas forcément non plus celle qu'il faille nécessairement prôner, car les deux sont indispensables.
Est-ce que ça peut se situer par rapport à un stade d'évolution ? Est-ce que le stade destructeur ne serait pas prégénital et le stade de la vie plutôt une sexualité génitalisée ?
Oui, vous le savez, je n'aime pas trop parler en termes de prégénital et de génital. Je pense que les deux sont constamment conjoints. Il n'empêche effectivement que le mouvement de la génitalisation est un mouvement d'apparence synthétique et d'apparence, disons, plus constructive. Et inversement, le niveau du prégénital ou du non-génital est un niveau plus anarchique. C'est certain. Mais encore une fois, avec toutes les réserves quant au fait qu'il s'agisse vraiment d'une succession. Je ne pense pas que c'est une véritable succession. Pas plus que la succession partielle. Par exemple, l'opposition entre partiel et total chez Melanie Klein. Voilà quelque chose sur lequel nous avons réfléchi. Peut-on penser, même en philosophe, le partiel comme existant avant le total ? Est-ce qu'on n'est pas forcé de dire le partiel n'existe que sur la perspective du total ? On ne peut parler de partiel qu'à partir du moment où on a le total présent, n'est-ce pas ? Donc l'idée que le partiel vient avant et puis que le total est la totalisation de partie, c'est une idée purement rétrospective. En réalité, ce n'est qu'à partir du moment où l'on perçoit le partenaire humain comme total, que l'on peut là-dessus commencer à découper, pourrait-on dire, au sens là où l'emploient les phénoménologues, qu'on peut commencer à découper du partiel. Alors, les visions purement constructivistes, telles qu'on les trouve parfois chez certains cléniens un peu dogmatiques, ces visions doivent être abolies et remises à leur place. De même encore que la succession du paranoïde et du dépressif, c'est exactement la même question, et on s'aperçoit que Klein, à la fin de sa vie, a dit que ce n'était que des abstractions, qu'il y avait toujours à la fois du paranoïde, c'est-à-dire du destructeur et de l'agressif, même au sein du dépressif, qui est la phase justement plus vouée à l'amour et à l'objet total. Alors, pour revenir à cet intérêt pour Klein, je pense que il faut quand même, peut-être aussi comme chez Freud, être capable de relativiser cette notion de pulsion purement biologique. Pour moi, les pulsions ne sont pas des êtres biologiques. Les pulsions sont des êtres, soit des êtres mythiques, soit des êtres qui se construisent dans le sujet humain à partir de sa relation avec les autres. Et là, je pense qu'il faut complètement révolutionner l'idée que biologiquement, nous avons en nous des forces destructrices et des forces aimantes. Cette destruction et cette aimance ne sont que des résultats de la métabolisation. C'est une métabolisation de nos relations avec nos parents. C'est ce que nous en percevons, tout enfant, et ce que peu à peu nous en intériorisons. Et l'idée d'objet interne, pour moi, est tout à fait liée également à la notion de pulsion, en ce sens que ce sont, loin que les pulsions soient, encore une fois, des forces biologiques, les pulsions ne sont pas autre chose que la façon dont ces objets nous meuvent, dont ces objets nous attaquent. Je reprends encore mon image de tout à l'heure, cette balle dans le poumon. Cette balle dans le poumon peut devenir quelque chose qui va pousser quelqu'un, ou chez le chirurgien, ou à se jeter à la rivière, ou que sais-je, à mille actions, parce qu'elle est là et que c'est elle qui est la source de la pulsion.
Est-ce que parler, comme vous l'avez fait tout à l'heure, de pulsion sexuelle de mort, est-ce que ce n'est pas tout de même un peu métaphorique, parce que habituellement on relie tout de même la sexualité à l'éros ?
Oui, je ne pense pas que ça soit métaphorique, mais je veux bien en effet que l'expression ait de quoi surprendre ou scandaliser. Alors, je vais, si vous le voulez bien, aborder la question de la façon suivante. Voici un nourrisson, disons, de 0 à 12 mois. Voici deux grands psychanalystes, Freud et Melanie Klein, qui nous parlent de ce nourrisson. Tous les deux de façon révolutionnaire. Alain Pourny dit, voilà, ce nourrisson de 0 à 12 mois, c'est un grand sexuel. Et 40 ans ou 50 ans plus tard, voici Mélanie Klein qui, devant ce même nourrisson, nous en parle en nous disant, ce nourrisson, c'est un grand sadique. J'ai fait tout à l'heure toute réserve quant à l'observation réelle. Il n'empêche qu'il y a matière à réflexion de se dire qu'au même point, au même lieu, deux grands observateurs et deux grands théoriciens voient des choses qui seraient aussi différentes que l'éros d'une part et le sadisme de l'autre. À partir de là, on peut dire ben, l'un s'est trompé, l'un a mal vu, l'autre a bien vu, ou on peut essayer de se demander est-ce qu'ils n'ont pas vu la même chose ? Est-ce qu'ils n'ont pas vu l'un et l'autre la même chose, en appuyant bien sûr sur des aspects différents? Est-ce que finalement, ce n'est pas la même chose que de parler de l'érotisme du nourrisson et de parler de son sadisme? Et si vous voulez, c'est un peu ce que j'essaye de faire en parlant de pulsions sexuelles de mort, c'est de montrer que ce que Freud appelle l'érotisme du nourrisson, ce que Freud voit dans cette attaque, cette agression contenue dans le nourrisson, et finalement, c'est peut-être une seule et même chose, en ce sens que le nourrisson est soumis de la part de l'érotique qui fait intrusion dans son monde, parce que l'érotique, c'est l'érotique des parents. Eh bien, l'érotique telle qu'elle fait intrusion dans son monde devient forcément pour lui quelque chose qui l'agresse. Donc le nourrisson est soumis à l'agression, voire à la destructivité de l'érotique qui lui est apporté par l'univers culturel et l'univers parental, et évidemment ce qu'il en perçoit, et qui est extrêmement déformé. Mon idée donc, c'est que la pulsion de mort n'est pas du tout quelque chose de biologique, ce n'est pas du tout quelque chose qui nous amène notre corps à mourir, c'est quelque chose qui soumet notre moi à la géhenne et à la mort. Et ce qui soumet notre moi à la géhenne et à la mort, voyez, nous retrouverions aussi la sorcière, ce qui soumet notre moi à la gêne et à la mort, c'est l'arrivée de la sexualité dans notre univers. Et la sexualité est aussi quelque chose qui n'est pas tous les jours tout rose, et qui peut être également torturant.
Pour conclure, qu'est-ce qu'on doit retenir actuellement de Mélanie Klein, ou formulé autrement, quelle est l'actualité de Mélanie Klein ?
Mélanie Klein est donc née il y a 100 ans. Mélanie Klein continue à être la deuxième grande figure de la psychanalyse, la première étant celle de Freud. Si vous assistez de nos jours à un congrès psychanalytique international, vous y verrez cette chose fort frappante, c'est que sur la base d'un thème généralement clinique, parfois aussi théorique, vous avez deux rapporteurs, un rapporteur classique, soi-disant freudien, qui souvent d'ailleurs se trouve dans la lignée la plus américanisée du freudisme, et un rapporteur kleinien. On fait la balance, on apporte le freudien et le kleinien, l'un nous parle de l'Édipe et le second nous parle du pré-édipien ou du pré-génital. La bagarre est généralement courtoise, parfois avec des flèches un peu acérées, et puis tout le monde part content, se disant « bien voilà, on a fait montre d'un certain libéralisme, la psychanalyse abrite des courants différents ». Quel est le véritable dialogue ? Je pense que le véritable dialogue ne peut s'instituer que si l'on dépasse des oppositions dogmatiques de ce genre, et si encore une fois on se demande si derrière les oppositions de dogme et de terminologie, voire des choses aussi importantes que édipien ou pré-édipien ou non-édipien, il n'y a pas des convergences profondes à retrouver, il n'y a pas une inspiration profonde et commune à retrouver. Alors, tant qu'on en restera, disons, au verbatim, n'est-ce pas, à la terminologie, tant qu'on en restera simplement au plus extérieur du dogme, on ne dépassera pas cette succession et cette juxtaposition de rapports sans établir, je dirais, la véritable relation qui serait le véritable rapport, c'est-à-dire sans retrouver chez l'un comme chez l'autre ce qui les pousse, Qu'est-ce qui pousse Freud? Qu'est-ce qui pousse Melanie Klein? Qu'est-ce qui pousse tout psychanalyste? Quelle est son exigence? Qu'est-ce qui, dans le monde interne, le fait se mouvoir? Eh bien, je pense que c'est ces inspirations-là qu'il faut retrouver. Alors, lisons Melanie Klein, mais non pas comme un dogme, lisons-la comme quelque chose qu'il faut sans cesse essayer de faire travailler.
C'était Recherche et pensée contemporaine. Faut-il brûler Melanie Klein par Émile Noël, avec Jean Laplanche, professeur à l'Université Paris 7, responsable du doctorat de recherche en psychanalyse, Jacques Goldberg, psychanalyste, chargé de cours à l'Université Paris 7, Jean-Michel Petot, psychothérapeute, maître assistant à l'Université Paris 10. Texte lu par Frédéric Cantrel. Enregistrement et mixage Jean-Paul Herbert, Claude Jubier. Réalisation Jacqueline Archambault. Une bibliographie est à votre disposition. Pour l'obtenir, il suffit de la demander à Émile Noël, émission Faut-il brûler Melanie Klein, France Culture, Maison de Radio France, 75 786, Paris CEDEX 16.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 janvier 1983. Vous pouvez la réécouter en ligne ou la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr à la rubrique « Les nuits de France Culture ». ».